In extenso.
In extenso.
Première partie. Attention, on touche au mythe. Et quand on touche au mythe, forcément, on fait attention, on se prémunit de tout ce qu'on va dire, parce qu'on sent, qu'on peut se faire un peu taper dessus. Isabelle Falconi, bonsoir, bienvenue.
Mais bonsoir, mais oui, on a toute une ID au fond du cœur, et attention, pas touche.
Ouais, c'est ça, il faut vraiment, on peut rire de tout, on peut rire, mais quand on veut rire d'ID, il faudra voir comment on le fait. C'est pas le but aujourd'hui de notre rencontre. Vous avez sorti avec votre collègue Anne Martinetti aux éditions Favre, à table avec ID, 50 recettes gourmandes. Alors, la première fois que je l'ai reçue, clairement, j'ai ouvert la partie directement recette avec toutes ces magnifiques photos de menus, parce que comme vous le voyez à mon physique, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, la gastronomie. Et puis après, en creusant l'émission, en la préparant, on se rend compte que le livre est énormément plus fouillé que ça. Il est très complet et on y découvre vraiment l'univers d'ID, mais plus que ça, l'univers de son écrivaine, son autrice, Johanna Spyri, et puis aussi ben, l'époque, hein, cette fin du 19e siècle, avec en Suisse tout ce qui se passe au niveau économique, construction du Gothard, le développement de l'Helvétie moderne, le développement des grands mythes que sont Guillaume Tell et compagnie, l'évolution politique, et puis là, ID qui arrive, et qui crée un bouquin pour les enfants qui va tourner tout autour du monde. Johanna Spyri a énormément marqué son époque.
Mais absolument. Et ce qu'on a voulu avec Anne Martinetti, c'est une plongée, une exploration à la fois gourmande, chaleureuse, mais intelligente sur ID. Anne Martinetti, c'est une amie, je la connais depuis plusieurs années. C'est une Parisienne grandie à Nice. Et moi, la petite Helvète des bords du Léman. Et on s'est retrouvés à papoter, à discuter de sujets et d'autres. Et tout à coup, on s'est retrouvés sur cette même passion ID. On s'est dit, mais il y a quelque chose à explorer. Et effectivement, alors ID, oui, on mange des choses bonnes, des choses naturelles, des choses gourmandes. C'est un peu la cuisine de grand-maman. Donc, c'est une porte d'entrée parfaite pour replonger dans un mythe qui nous appartient tous. ID, finalement, on l'hérite. Qu'on le veuille ou non, on hérite de ID. Mais souvent, on en a une image assez mièvre, assez kitsch, assez superficielle.
Le vieux chalet à la montagne, justement, le grand-père, le chevrier et compagnie, et puis en fait, c'est beaucoup plus que ça.
Bah oui, c'est beaucoup plus que ça. Et personne ne fait l'exercice que nous avons fait, c'est relire ID avec des yeux d'adulte. ID, c'est une histoire très émouvante, c'est une petite orpheline qui se retrouve comme ça, abandonnée une deuxième fois auprès d'un grand-père qu'elle n'a jamais rencontré. Elle doit gagner son affection, ce qui n'est pas gagné. Et puis, alors, elle adore ensuite la montagne, elle trouve un copain, Peter, les chèvres, tout ça, c'est son paradis. Quelques toutes petites années après, elle est à nouveau arrachée à ce paradis, elle se retrouve à Francfort, dans une grande ville où elle doit, auprès d'une famille bourgeoise, où elle doit tenir compagnie à la fille de la famille, Clara, qui est paralytique. Elle est très malheureuse, elle faillit mourir presque, tant elle est malheureuse, sa montagne manque, elle se languit, etc. Voilà. Et puis c'est aussi une manière de montrer qu'une Suisse pauvre, on plonge dans la Suisse du 19e siècle, où ben, la tante de Heidi doit vendre ses services en tant que personnel de maison aux familles bourgeoises, peut-être de Zurich ou de Francfort. Et finalement, Heidi retourne à l'Alpe, heureusement, elle guérit. Voilà. Et c'est là que le miracle, et c'est ce qui nous a beaucoup intéressé, Anne et moi, arrive, c'est que Heidi retrouve son grand-père, Peter, ses petites chèvres. Clara, la jeune paralytique de la famille bourgeoise de Francfort, la rejoint. Et Clara, à force, il suffit de quelques jours de
grâce au lait de chèvre, au soleil, à l'air de la montagne.
Exactement, elle remarche. Donc, il y a tout un rapport à la nourriture, à la nature, au mode de vie qui nous a semblé absolument très 2022. Aujourd'hui, on est quasiment de nouveau dans cette mythologie-là. On boit du lait de chèvre de la ferme, on mange des produits bio, on on guérit à peu près toutes les maladies. On associe aujourd'hui, on donne
la nourriture et le côté naturel des choses,
un pouvoir thérapeutique qui est ce qu'on a retrouvé aussi dans ID. C'est pour ça que la porte d'entrée de la cuisine, de qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange chez ID, mais qu'est-ce qu'on mange aussi de différent. qu'on soit au chalet du grand-père à l'Alpe, qu'on soit peut-être plus bas dans les Grisons à Mayenfeld, qu'on soit à Francfort ou ailleurs en Suisse, ça nous a semblé vraiment quelque chose d'important à restituer. Et puis ensuite, évidemment, ben, un livre de cuisine, c'est quelque chose qu'on peut partager, ça donne envie de faire des recettes, de recréer finalement l'ambiance de Heidi chez soi.
Alors c'est exactement ce qui se passe, hein, quand on lit les recettes, c'est qu'on se dit, ouh, ça me rappelle moi des bons souvenirs, en tout cas j'ai des origines suisse-allemandes et à chaque fois je me dis, bah, effectivement, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie de me replonger là-dedans. On va se rappeler des odeurs de grand-mère, on va se rappeler des odeurs de cuisine familiale, des odeurs de peut-être dimanche justement de repas en famille. Et c'est ce qu'on cherche un petit peu, hein, ce mythe, ce rapprochement avec Heidi que vous avez réussi à recréer dans ce livre, où on entre complètement dans l'univers d'Heidi et de Johanna Spyri, et puis ensuite on passe à table et on est baigné par, en tout cas, bah, par les cinq sens. Il y a cette recherche-là et cette application.
Absolument, on a fait le voyage de Heidi, c'est-à-dire qu'on a relu tous les livres de Heidi, non seulement les volumes de Johanna Spyri qui a écrit les deux premiers volumes de l'histoire de Heidi, mais on a relu aussi la suite des aventures de Heidi qui ont été écrites par Charles Triton, qui était le traducteur en français de Johanna Spyri. C'est des livres écrits un peu plus tard, dont on peut trouver qu'ils dénaturent un peu l'héroïne de Heidi, mais disons, ils ont l'avantage de nous faire voyager encore plus loin en Suisse et dans le monde que Heidi. Et donc, on a voyagé à nouveau avec Heidi, et à chaque fois, on a relu Heidi, on a repéré partout où Heidi et les autres personnages passent à table, que ce soit pour un goûter, pour un repas du soir, un pique-nique sur l'Alpe, et à chaque fois, et ça c'est tout le talent d'Anne Martinetti, qui est écrivaine culinaire, c'est de se demander qu'est-ce qu'à cette époque on pouvait bien manger, quel type de produit on utilisait, et de concevoir une recette faisable par tout le monde, de manière facile, ici, chez soi. Et chaque recette est accompagnée de la citation d'où est inspiré cette recette. Donc c'est vrai qu'à chaque page, on passe à la fois des histoires de Heidi, des livres, du récit à l'univers de la bouche et des nourritures affectives.
On rappelle à table avec Heidi, vous en parlez merveilleusement bien. 50 recettes gourmandes d'Isabelle Falconier avec nous ce soir, qui a écrit avec Anne Martinetti. C'est aux éditions Fave. On revient ensemble dans quelques instants pour célébrer ce mythe Heidi. Merci beaucoup. In extenso.